Merci de nous rejoindre, vous êtes bien sur Europe 1 et Elisabeth Assayag vous donne rendez-vous à 13h10 pour la France Bouge. On parlera aujourd'hui de la pénibilité au travail et de ses solutions. Il est midi et demi, place à l'info sur Europe 1 et votre journal de la mi-journée avec vous, Lionel Gougelot. Bonjour Lionel.
Bonjour Géraldine, bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour dérouler l'actualité de ce jeudi 13 août.
Oh non, demi, ça fait des années que je rêve ça.
Je dirais que le PSG est capable de tout. Là franchement je pense que je vais aller faire un bilan cardiaque pour voir si tout va bien.
C'est vrai qu'il fallait avoir le cœur bien accroché hier soir devant sa télévision. En deux minutes, le Paris Saint-Germain renverse la situation, s'offre une demi-finale et peut s'autoriser à rêver de la coupe aux grandes oreilles. Nous verrons ça dans un instant avec Jean-François Pérez et Simon Rubin. L'administration Trump prolonge de 6 mois la taxe de 25% sur les vins français.
L'Union européenne doit se préparer à riposter, elle aussi, par des sanctions contre les produits américains exportés vers l'Europe.
Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a vivement réagi ce matin au coup de poignard porté à la filière viticole. Dans ce journal également, le spectre d'une deuxième vague de l'épidémie de coronavirus et l'obligation du port du masque en entreprise qui continue de faire son chemin.
Si jamais on a des nouveaux protocoles sanitaires qui ressortent, alors ça va mettre un petit peu à bas les projets de reprise qui pouvaient être faits.
Nous verrons que cette obligation pourrait bien perturber le fonctionnement des entreprises. À suivre, le Liban et l'arrivée de l'aide française à Beyrouth, alors qu'une semaine après l'explosion du port, les recherches se poursuivent pour retrouver les disparus. La sécheresse qui provoque des fissures dans les habitations. Et puis nous irons prendre l'air de la montagne dans les Pyrénées, où les stations ont la côte. Les touristes sont au rendez-vous. Enfin la météo, Marlène Duret, toujours une vraie menace orageuse.
Hein. Oui, il y en a en ce moment d'ailleurs au sud de Lyon, pas très loin de Saint-Etienne, un autre à traverser Rouen, Abbeville, Amiens, et ça va continuer, c'est la tendance de l'après-midi, des orages qui peuvent éclater à tout moment, plus tardivement dans les régions de l'Est. Les régions méditerranéennes font figure d'exception, et puis l'autre info principale, c'est quand même la baisse des températures.
Effectivement, on vous retrouve tout à l'heure, un petit peu avant le journal de 13h qui sera présenté par Yasmine Akatou. Voilà pour le sommaire, place à l'actualité.
Europe 1, écoutez le monde changer.
En l'espace de 2 minutes, ils sont donc passés de l'enfer au paradis. Le Paris Saint-Germain accède pour la 2e fois de son histoire à une demi-finale de Ligue des Champions, la première de l'ère Qatari. Cette victoire 2-1 acquise dans les toutes dernières secondes, donc face à l'Atalanta Bergame, a fait littéralement chavirer les supporters hier soir.
Je suis très ému, j'ai envie de pleurer carrément. On est en demi, ça fait des années que je rêve ça.
Pour la qualif et pour la fin du match qui est juste incroyable, je dirais que le PSG est capable de tout. Et là, plus que jouer avec le cœur, là, franchement, je pense que je vais aller faire un bilan cardiaque pour voir si tout va bien.
Bah ouais, les montagnes russes, on a eu peur jusqu'au bout. Puis c'est le dénouement, c'est la joie du football, ça.
J'ai toujours dit, le PSG va égaliser, on va la gagner, je le sens. Ils ont la rage.
C'est les 50 ans du club aujourd'hui, on devait la gagner, on l'a gagné au panache. Rendez-vous les gars pour la finale.
Eh ben voilà, il y avait de l'ambiance hein, parmi les supporters hier soir. Bonjour Jean-François Pérez.
Bonjour Léel.
Incroyable scénario hein, sur la pelouse du stade de la Louche à Lisbonne.
Oui, le PSG a offert un magnifique cadeau à ses supporters le soir de son 50e anniversaire. Mais il faut le dire, à 5 minutes près, la fête aurait pu virer au cauchemar. On s'approchait de la fin du temps réglementaire. Les Parisiens étaient menés 1-0 depuis plus d'une heure, laissant une impression d'ensemble médiocre à l'image d'un milieu de terrain et de défenseurs latéraux hors du coup. Heureusement, il y avait Neymar, maladroit mais débordant d'initiative. Et puis surtout, Kylian Mbappé entrait à l'heure de jeu, des jambes de feu, comme s'il n'avait jamais été blessé. Les Italiens ont reculé jusqu'à céder dans le temps additionnel avec 2 buteurs improbables. Marquinhos, bien mièvre jusque-là, et puis Zorro est arrivé.
Alors justement, parlons-en. Il y a un vrai destin, ce Éric Choupo-Moting. Disons les choses franchement, Jean-François, que ce soit lui qui offre la qualification au Paris Saint-Germain, ça paraît complètement improbable.
Ah oui, en un quart d'heure, il a tout changé. C'est lui qui centre sur l'égalisation et lui qui marque le but de la qualification, le tout en moins d'un quart d'heure sur le terrain. Éric Maxime Choupo-Moting, 31 ans, Camerounais, éternel remplaçant, homme et joueur attachant, adoré de son entraîneur et de ses partenaires, souvent raillé pour son côté Gaston Lagaffe, ouais. Capable de blesser Verratti involontairement avant le quart de finale, d'empêcher le PSG de marquer un soir de Ligue 1, de viser les pigeons au lieu du but adverse. Sa bonne humeur permanente et son abnégation ont enfin payé. Il était temps, lui qui est en toute fin de contrat avec le PSG. Giroud a apprécié en connaisseur malgré un petit souci à l'oral.
J'arrive même pas à dire son nom. C'est vrai qu'il a été... Moi j'avais l'impression qu'il était gardé uniquement pour la bonne humeur qu'il communiquait au groupe. Vous avez vu comment il est aimé, comment il a fait plaisir à tout le monde. Et ça compte aussi dans une équipe.
Voilà Guy, Eric, Maxime, Choupo-Moting, retenez bien son nom car la compétition n'est pas finie pour le Paris Saint-Germain.
Non, effectivement, justement, on va en parler. Merci Jean-François Pérez, je me tourne vers vous Simon Rubin. Il faut s'intéresser à la suite maintenant pour le Paris Saint-Germain, place à la demi-finale. Donc, et ça va aller très vite parce que c'est déjà mardi prochain.
Ouais, c'est parti pour le contre-la-montre. Hein. Les Parisiens jouent la demi-finale dans 5 jours. Ça laisse peu de marge pour faire l'état des troupes, soigner les blessés. Hein. Grosse interrogation sur le gardien Keylor Navas, touché à la cuisse pendant le match. Il a dû sortir. Une lésion musculaire, ça peut prendre du temps. Hein. Quelques interrogations aussi autour de l'état de Thiago Silva qui a fini avec des crampes. Même question autour de Marco Verratti et Léon Kurzawa. Enfin, Kylian Mbappé pourra-t-il jouer titulaire? Ça, c'est encore une autre question. Alors, on sait qu'André Di Maria sera de retour de suspension, c'est déjà ça. Ce soir, le staff du PSG sera évidemment très attentif au match entre Leipzig et l'Atlético de Madrid, puisque le vainqueur affrontera Paris au tour suivant. Et à partir de là, on pourra commencer à préparer, par exemple, les vidéos pour adapter la préparation et tout le travail tactique. Ce qui est sûr, c'est que même reclus dans leur hôtel de Lisbonne, les Parisiens n'auront pas vraiment le temps de s'ennuyer.
Effectivement. Merci Simon Rubin du service des sports d'Europe 1. En attendant, l'autre quart de finale que l'on suivra avec intérêt, c'est celui de Lyon. Bien sûr, ce sera samedi soir contre Manchester City. Et ce sera à suivre sur Europe 1, Jean-François. Hein,
absolument. Soirée spéciale, samedi, 20h, 23h30, minimum. On ne sait jamais jusqu'où ça peut nous amener.
Merci.
Midi 36 sur Europe 1, la suite du journal Lionel Gougelot.
Le chômage a donc connu un recul de 0,7 points au deuxième trimestre. Mais attention, c'est un chiffre qu'il faut prendre avec un certain recul, un chiffre en trompe-l'œil, Emmanuel Dutheil, parce que ça n'est qu'une conséquence en fait du mode de calcul des demandeurs d'emploi durant la période de confinement.
Oui, hein, on pourrait résumer ces chiffres de cette façon. C'est le calme avant la tempête. Pourquoi le calme ? Eh bien, c'est simple, le chômage baisse pour une seule raison, le confinement. C'était en effet quasi impossible de chercher un emploi. Les demandeurs d'emploi n'ont donc pas été considérés en recherche active d'emploi et donc pas comptés dans les chiffres du chômage. Ce sont les femmes qui ont le plus profité de cette baisse technique. Mais le plus dur est en effet devant nous et ça se voit déjà dans les chiffres. Le nombre de personnes qui souhaitent trouver un emploi sans être considérées comme chômeurs s'est envolé sur le trimestre écoulé. Il est même au plus haut depuis 2016. Autre fait très symbolique, le nombre inédit de salariés qui se sont retrouvés en situation de chômage partiel ou d'arrêt maladie pour garde d'enfants. Avec les plans sociaux qui vont se multiplier, le nombre de demandeurs d'emploi va exploser dans les mois à venir. Et l'objectif de faire reculer le taux de chômage sous la barre des 7% à la fin du quinquennat est aujourd'hui totalement inatteignable.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. L'autre chiffre de l'actualité ce midi, c'est la baisse du nombre de morts sur les routes en juillet dernier, moins 11,3%, recul qui s'explique sans doute par un trafic moindre le mois dernier, en raison bien sûr de la crise sanitaire. C'est un coup dur pour la viticulture française. La nouvelle est tombée cette nuit, le gouvernement américain prolonge de 6 mois la taxe de 25% sur les vins français. Bonjour Carole Ferry. Cette mesure de rétorsion décidée par Donald Trump était entrée en vigueur à l'automne dernier en réponse aux subventions accordées à Airbus, c'est bien ça ?
Exactement, c'est l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui avait alors donné son feu vert aux États-Unis pour sanctionner la France et d'autres pays européens pour avoir subventionné en effet Airbus il y a plus de 15 ans. La vengeance est un plat qui se mange froid et Donald Trump se régale plus de 15 ans après. Pourtant, le mois dernier, Airbus a présenté un plan de négociation, s'est engagé à rembourser les prêts qui lui avaient été octroyés à l'époque. Insuffisant, répond donc Washington, qui maintient la pression et rajoute même sur sa liste les confitures et pâtes de fruits françaises qui seront également taxées en septembre. Réaction ce matin du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Il espère qu'un accord sera rapidement trouvé entre l'Europe et les États-Unis. Sans quoi, assure-t-il, il faudra réagir.
Il y a une chose qui doit être très claire pour tout le monde. Si jamais les sanctions américaines étaient maintenues et que nous n'arrivions pas à trouver un accord global entre les États-Unis et l'Union européenne que nous souhaitons et que nous appelons de nos voeux, dans ce cas-là, l'Union européenne doit se préparer à riposter elle aussi par des sanctions contre les produits américains exportés vers l'Europe. À riposter fermement, à riposter de manière réunie.
Voilà, mais l'Europe doit d'abord obtenir le feu vert de l'OMC qui en septembre pourrait nous autoriser à notre tour, nous Européens, à sanctionner les exportations américaines pour des subventions accordées à Boeing. En attendant, Washington maintient le couteau bien serré sous la gorge des Européens.
Merci Carole Ferry.
Il est midi 39.
Europe 1.
On marque une première pause à suivre le point sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus. Deuxième vague ou pas ? Question-réponse dans un instant.
Votre journal de la mi-journée, la suite sur Europe 1, Lionel Gougelot.
2500 cas de coronavirus déclarés en 24 heures en France. Une vingtaine de départements ont dépassé le seuil de vigilance de l'épidémie et seuil d'alerte à Paris. Le seuil d'alerte, c'est lorsque l'on compte 50 cas pour 100 000 habitants. On a vu ces dernières heures toutes les interventions des pouvoirs publics qui mettent en garde sur le risque d'une deuxième vague. Bonjour Victor Delande.
Bonjour Lionel.
Est-ce que les derniers indicateurs sont réellement inquiétants ou alors faut-il d'une certaine façon les relativiser ?
Alors pour certains chefs de réanimation que j'ai pu joindre ces derniers jours, on est bel et bien au pied de la deuxième vague. Dans leur service, ils voient les cas se multiplier ces derniers jours. Dominique Costagliola, directrice de recherche à l'INSERM, est plus prudente. Pour elle, on n'est pas dans la même situation qu'au mois de mars.
Maintenant, c'est quand même plutôt comme janvier ou février. L'épidémie était là, mais on ne savait pas. Et puis, il y avait des cas, il y avait des contaminations, mais c'était à bas bruit. Et l'hôpital n'était pas encore submergé. Mais on est dans la phase où, du coup, on peut encore intervenir. Et on a des chances d'y arriver. Parce que malgré tout, ce qui est différent également, c'est qu'on a des tests et on peut utiliser les masques, puisque maintenant, on en a.
Alors certes, tous les indicateurs sont en hausse, mais ils n'ont encore rien de comparable avec ce qu'on a vu au mois de mars. Avec moins de 400 personnes en réanimation dans toute la France, on est revenu au même niveau que le 15 mars dernier. Cinq jours plus tard, 1300 patients étaient dans un état grave, alors que ces derniers jours, les services de réanimation se remplissent beaucoup moins vite. On se trouve peut-être au pied de la deuxième vague, il y a encore débat sur le sujet, mais tous les spécialistes sont catégoriques. On a encore les moyens de contrôler la reprise épidémique et surtout de contrôler la hauteur de la vague.
Merci Victor Delangue. Alors justement, devant la perspective, sinon d'une deuxième vague, en tout cas d'une reprise de l'épidémie, on voit depuis quelques jours que l'obligation du port du masque gagne du terrain dans les grandes villes. Et la question qui va se poser également, c'est au travail. Le masque, 8 heures par jour, à l'atelier ou au bureau, ça pourrait bien compliquer, voire même, disons-le, plomber la rentrée des entreprises, Élise Dangean.
Était studieux pour les entreprises qui préparent cette rentrée 2020 un peu particulière. Toutes espèrent évidemment un retour à la normale, ou presque, mais les indicateurs ne sont pas bons. La menace d'une reprise épidémique plane, le gouvernement songe à leur imposer le port du masque obligatoire. Alors à 3 semaines du moment fatidique, on s'interroge dans les services RH et notamment dans les entreprises qui espéraient revoir leurs salariés sur site en septembre. Certaines pourraient abandonner l'idée. Trop compliqué à mettre en place, d'autant que beaucoup de salariés ont pris goût au télétravail et que ces nouvelles contraintes sanitaires ne sont pas pour les inciter à revenir, selon Benoît Serre. Il est le vice-président de l'Association nationale des DRH.
L'argument premier qu'on utilise pour faire revenir les gens qui n'ont pas vraiment envie de revenir, on l'avait constaté avant l'été, c'est de dire qu'ils vont retrouver la logique collective d'une entreprise. Ben là, si on met des masques, si on renforce encore les mesures, ce sera un argument pour dire « mais pourquoi voulez-vous que je revienne alors que je ne peux pas travailler avec mes collègues autant que je travaille à distance ?»
La NDRH appelle donc le gouvernement à vite se prononcer sur les mesures appliquées aux entreprises à la rentrée pour que chacune ait le temps de s'organiser. Le compte à rebours est déjà lancé.
Élise Dangean. En attendant le retour au bureau ou éventuellement au télétravail, beaucoup d'entre vous sont encore malgré tout en vacances mais sans vraiment déconnecter avec les mails, les réseaux sociaux ou même la famille par Internet. Encore faut-il avoir du réseau. Parce qu'en été, dans certaines régions, avec les afflux de touristes, eh bien, ces mêmes réseaux tirent un peu la langue. Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour Lionel, bonjour à tous.
Journaliste au service économie d'Europe 1. Vous avez enquêté, Clément, ces réseaux, est-ce qu'ils tiennent vraiment le choc durant l'été ?
C'est un vrai défi. Les opérateurs en conviennent tous. C'est une période très compliquée dans certaines communes. Il faut bien se rendre compte que la population est multipliée par 3, 5, voire 10 en quelques jours à peine. Et entre les Instagrammeurs fous, ceux qui ne peuvent pas se passer du GPS en randonnée et ceux qui n'arrivent pas à lâcher Netflix au camping, la surcharge est vite arrivée. On ne parle pas alors de panne ou de blackout, bien sûr, mais plutôt de petits ralentissements ici ou là. Les opérateurs minimisent, mais il faut bien le dire, ça devient vite énervant quand on doit s'y reprendre à 3 fois pour appeler quelqu'un. C'est agaçant, mais c'est inévitable, reconnaît Nicolas Drouillet. Il est le directeur des réseaux pour le Grand Sud-Est chez Orange.
Il y a forcément une limite capacitaire sur un réseau. Donc, ponctuellement et temporairement, la limite capacitaire peut être franchie. Maintenant, ce que nous faisons, c'est que nous augmentons chaque année la capacité du réseau en conséquence.
Alors les réseaux, on l'entend, sont donc conçus pour absorber un flux soudain de téléphones et d'ordinateurs sur les lieux de vacances, et ce grâce aux données. Elles sont décidément partout aujourd'hui. Bouygues, SFR et les autres analysent la consommation des sites touristiques tous les étés. Ils en tirent ensuite des prévisions et si nécessaire, eh bien, ils augmentent la capacité du réseau pour l'été suivant. Mais toutes ces prévisions n'empêchent pas les pépins, notamment météo. Par exemple, la canicule peut endommager les boîtiers électroniques, c'est ce qu'on nous explique chez Bouygues. Et le vent peut être fatal sur les îles très prisées l'été. Mais il suffit d'une seule grosse rafale et les antennes qui les relient au continent peuvent se décaler. Derrière, la transmission ralentit et c'est l'embouteillage pour poster ses photos de vacances.
Effectivement. Alors, quelles sont les solutions pour acheminer tant bien que mal le réseau vers les vacanciers?
Il y a d'abord le travail qui est réalisé tout au long de l'année. Les opérateurs installent des antennes 4G pour couvrir un maximum de lieux très touristiques. Par exemple, Orange a récemment couvert la Vallée Blanche, c'est au-dessus de Chamonix. On est à plus de 3000 mètres d'altitude, mais les 800 000 touristes qui empruntent chaque année le téléphérique vers l'Aiguille du Midi, eh bien, ils sont désormais connectés en 4G jusqu'au sommet. Et puis, il y a les solutions d'appoint, comme les antennes mobiles. Ce sont des équipements installés dans des camions. Il suffit de les relier au courant électrique pour donner un coup de boost au réseau local. Tous les opérateurs les utilisent. D'ordinaire, c'est plutôt pour les festivals ou les grands rassemblements d'été, mais ils peuvent aussi dépanner les stations balnéaires surchargées.
Tout ça pour garder le contact, tout simplement. Merci Clément Le Saffre. Une semaine après Emmanuel Macron, c'est Florence Parly qui sera cet après-midi à Beyrouth. La ministre des Armées entame une visite de 2 jours à l'occasion notamment de l'arrivée de l'aide française mobilisée suite à la catastrophe du port. 350 hommes de l'aide alimentaire, des matériaux de construction, au total 18 tonnes d'aide médicale et 700 tonnes d'aide alimentaire. Dans les ruines du port et les quartiers alentours, on estime qu'une trentaine ou une quarantaine de personnes sont toujours portées disparues. Et les recherches se poursuivent par des équipes spécialisées venues notamment de France. Reportage à Beyrouth de notre envoyé spécial Nicolas Fellman.
Il manque 6 pompiers à trouver, il faut qu'on les trouve.
Gentil de Passos regarde la pelleteuse dégager les gravats, un mélange de béton et d'acier. Il est sapeur-pompier dans l'ONG du groupe Secours de Catastrophe Français.
Donc là, juste en face de nous, on a une entrée qui rentre dans le silo avec divers couloirs. On va rechercher des personnes et le miracle existe toujours, donc... Quoi pour un vivant.
Mais pour le lieutenant Andreas, c'est désormais mission quasi impossible. Les poches d'oxygène sous les décombres se font rares. Ce militaire de la sécurité civile coordonne la zone de recherche française. Un drone survole le cratère formé par l'explosion et rempli d'eau de mer. Des plongeurs français et libanais cartographient les fonds.
C'est pour mesurer l'étendue des dégâts, pour s'imaginer qu'est-ce qui est totalement détruit, qu'est-ce qu'on a gardé en surface. C'est une cartographie à la fois pour trouver les personnes, mais aussi pour reconstruire derrière. C'est un travail qui peut servir pour les années à venir.
On va commencer la recherche.
Un peu plus loin, 2 chiens reniflent les décombres.
Si, vous avez Sino, plus, si jamais il sent quoi que ce soit, il va soit se fixer, s'arrêter, soit tout simplement aboyer. Ce sera potentiellement pour nous le signe d'une victime. Et donc nos équipes derrière vont travailler en recherche pour essayer de confirmer le travail du chien.
Et pour identifier les corps, des gendarmes de l'Institut de recherche criminelle restent mobilisés aux côtés des Libanais. À Beyrouth, Nicolas Feldman, Europe 1.
Il est midi 48,
Europe 1. On marque une deuxième pause et l'on revient dans un instant pour évoquer la tristesse des mères, la détresse pardon, des mères face à la violence au quotidien, la sécheresse qui fissure les habitations et puis nous irons en montagne, la montagne où les professionnels du tourisme sauvent leur saison. A tout de suite.
La suite du journal sur Europe 1, Lionel Gougelot.
Un automobiliste qui tentait de fuir un contrôle de police a tué un cycliste hier soir à Paris. La victime, un homme de 59 ans, a été percuté par ce qui semble bien être un petit dealer qui voulait échapper à une interpellation, Guillaume Bille.
Oui, à l'origine, c'est une patrouille de police secours qui part sur une toute autre intervention, mais qui voit le comportement dangereux de ce conducteur au volant d'une Peugeot 2008, à tel point que les policiers décident de se détourner de leur mission et de contrôler l'automobiliste. Refus d'obtempérer, course-poursuite. Et quartier Montparnasse, le chauffard percute un cycliste, un homme d'une 50aine d'années projeté à une 30aine de mètres sous la violence du choc. Malgré les premiers soins et massages cardiaques pratiqués par les policiers, il a succombé à ses blessures. Pendant ce temps, le conducteur a été interpellé et dans sa voiture, les enquêteurs ont découvert une importante quantité d'herbe de cannabis ainsi que 1200 euros en liquide d'après nos informations. Ce jeune homme de 21 ans est donc en garde à vue. Il était lui-même sous l'emprise de stupéfiants au moment de l'accident et les policiers le soupçonnent de ne pas être un simple consommateur mais plutôt un trafiquant, peut-être un livreur de drogue à domicile, grande tendance ces derniers mois. Il est toujours interrogé en ce moment même avec potentiellement des charges lourdes, homicide involontaire et refus d'obtempérer, tous les deux aggravés, ainsi que délit de fuite et trafic de stupéfiants.
Merci Guillaume Billet du service police-justice d'Europe 1. Le sans-abri qui avait agressé 3 policiers hier après-midi dans le 13e arrondissement de Paris est décédé ce matin des suites de ses blessures. L'un des policiers attaqués avait ouvert le feu sur l'assaillant, le blessant grièvement au torse et à l'abdomen. Pas une journée sans qu'un maire ne se fasse agresser, encore récemment à Saint-Philippe-d'Aiguille en Gironde, où un élu a été frappé au visage après une banale affaire de tapage nocturne. En début de semaine, Philippe Bas, le président de la commission des lois du Sénat, avait interpellé le gouvernement sur ces agressions parfois violentes. Un SOS qui a été relayé ce matin sur Europe 1 par Carl Olive, maire de Poissy, invité de Sébastien Krebs.
Il faut attendre quoi? Il faut attendre combien de temps? Vous croyez pas qu'à un moment donné, quand on a à faire face à ces incivilités, on pourrait d'abord multiplier, allez, je dirais par 10 pour être volontairement provocateur, les amendes, et surtout que la semaine suivante, on puisse faire faire à ces personnes des TIG, par exemple, des travaux d'intérêt généraux. La loi ne nous le permet, il n'y a pas trop d'application par rapport à cela, et que derrière, on soit suivi effectivement par l'État et la justice. Encore faut-il que la justice ait des moyens. Pour moi, la justice n'a pas suffisamment de moyens et de moyens financiers pour pouvoir justement être efficace. Et si on ne corrige pas rapidement le tir, alors comme le disait le ministre de l'Intérieur hier, il n'y a pas d'autorité dans ce pays. Ah oui, ça c'est un vrai constat, il n'y a pas d'autorité dans ce pays parce qu'on ne respecte plus rien. Et ça, c'est insupportable.
Carl Olive, le maire de Poissy, ce matin sur Europe 1. Un nouvel incendie volontaire s'est tenu contre une salle de prière musulmane à Lyon. Les dégâts sont légers, mais c'est le deuxième incident de ce type en une semaine visant un lieu de culte musulman, donc dans l'agglomération. Cette fois, ça y est, on devrait être progressivement débarrassé dans les heures qui viennent de cette canicule qui nous étouffe depuis maintenant presque une semaine. Une vague de chaleur et des sécheresses à répétition depuis quelques années qui, dans certaines régions, fissurent les habitations. C'est le cas notamment dans le nord, dans la région de Lilloise, la petite commune d'Aubert, où s'est rendu Maximilien Carlier.
Voilà ce qu'on voit, fissure extérieure du haut du mur à jusqu'à 2 mètres en descendant.
André et Françoise montrent les dégâts sur la façade de leur maison en briques rouges au volet vert. À cause de la chaleur, cela s'intensifie.
Ça continue, ça s'écarte. Allez-y, entrez.
À l'intérieur, il y en a sur tous les murs.
On pourrait passer une pièce dedans.
Une fenêtre est bloquée, une baie vitrée presque condamnée.
L'ouverture de porte est difficile maintenant. La dalle a bougé. C'est du matériel, mais bon. C'est quand même ça a une valeur pour nous.
Ça m'inquiète parce que, je veux dire, si on doit le refaire à nos frais, c'est pas possible.
Les travaux, c'est parfois le prix de la maison, tout ça à cause du sol. Jean-Paul Hautecoeur, premier adjoint à la mairie d'Aubert.
L'argile, avec la sécheresse, se rétracte et quand il y a des saisons pluvieuses, il se regorge d'eau et c'est ça qui fait bouger les fondations des habitations.
Seule solution, la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour faire marcher les assurances. D'après plusieurs associations, il y aurait 1200 maisons fissurées dans le département du Nord. Aubert, Maximilien Carlier, Europe 1.
On le dit depuis le début de cette saison estivale, les touristes étrangers manquent cruellement aux professionnels du tourisme et dans certains endroits, la clientèle française comble difficilement le manque à gagner. C'est le cas notamment au château de Versailles qui d'ordinaire accueille 80% de visiteurs étrangers. Reportage d'Agnès Mastre.
La preuve qu'il n'y a pas grand monde dans les jardins du château, c'est qu'à l'heure du pique-nique, même pendant la canicule, il reste des places sur les bancs à l'ombre.
On est bien, on a trouvé du frais dans la végétation.
Laurent et Mélanie viennent pour la première fois depuis Poitiers, et pour eux l'absence de monde est aussi une aubaine en temps d'épidémie.
On va dire que c'est le bon compromis pour quand même profiter des moments de vacances en toute sérénité.
Les visiteurs sont donc ravis, mais forcément ça n'arrange pas tout le monde. Le château de Versailles a déjà perdu 45 millions d'euros à cause du confinement. Et avec lui, c'est toute l'économie locale qui plonge à l'image des cafés et brasseries situés à proximité.
Ouais, tout le monde galère et puis il y en a pas mal qui sont fermés d'ailleurs.
Michael Guichard gère 3 établissements. L'un d'eux est totalement fermé et les 2 autres terrasses sont quasi désertes.
On a réouvert au mois de juillet, ça a été une cata, donc on a refermé. Chiffre d'affaires... qui est de 500% l'été parce qu'on est assez saisonnier, on passe à zéro, quoi, donc c'est très compliqué. Là, on est en baisse de 70% sur les 2 autres affaires, quoi.
Et ce n'est visiblement pas prêt de s'arranger. Ici, le carnet de réservation est totalement vide jusqu'à l'année prochaine.
Un reportage de Damien Mestre. Alors, autre région, autre ambiance, au cœur de cet été de canicule et de crise sanitaire, la destination montagne tire son épingle du jeu. Beaucoup de touristes sont partis en effet chercher le calme et la distanciation en altitude. Loin des foules de bord de mer, c'est ainsi que dans certaines stations des Pyrénées, on enregistre des taux de fréquentation records, notamment à Salary-Soulan, où s'est rendu notre correspondant Benjamin Péter.
Alors on est prêt, je monte sur la trotte et puis on se retrouve un tout petit peu plus loin. Quoi.
Et c'est parti pour 1h30 de descente en trottinette tout terrain, depuis le col d'Azette jusqu'à la station. François apprécie cette activité familiale, c'est la première fois qu'il vient en montagne l'été.
D'habitude c'était les vacances étaient en famille à la mer. Cette année on n'a plus eu envie d'aller à la montagne. L'impression qu'on pouvait faire des activités variées avec moins de monde autour.
Comme lui, ils sont nombreux à avoir fait ce choix. La fréquentation a bondi de 20% dans la station, de quoi compenser un début de saison plombé par le confinement pour Jean-Marie, le patron de l'hôtel-restaurant Mire Pergola.
Là, on est complet depuis début juillet. On a plein d'appels et on refuse tous les jours des séjours plutôt longs. 15 jours à la montagne, en hôtel, on avait plus ce type de clientèle, mais aussi des gens qui veulent venir à la journée.
Cette nouvelle clientèle, Jean-Michel, qui organise des sorties en VTT, en trottinette ou en canyoning, espère bien la fidéliser.
L'effet Covid a bénéficié à la montagne. C'est un été qu'il ne faut pas rater. Cette clientèle, en fait, se rend compte du potentiel que l'on a en montagne l'été et a envie de revenir, quoi. Ouais. Sur le nombre, bon, je pense qu'on va en recapter une partie les étés prochains, on l'espère.
Et s'il y a plus de monde, c'est aussi que le panel d'activités s'est multiplié depuis quelques années. Une diversification imaginée pour compenser le manque de neige, mais qui trouve aussi son public l'été. À Saint-Lary-sous-Laon, Benjamin Péter, Europe.